Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une femme d'aujourd'hui qui se bat pour une question de grande actualité, celle du changement climatique et de la cause environnementale. Un combat, une mission, une passion qu'elle a démarrée quelques décennies de cela. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Raja Sheffield, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je crois que la Raja.
Merci beaucoup, je vais très bien, merci.
Alors Raja Sheffield, vous êtes un nom très connu. Vous participez énormément à élever les consciences. Vous êtes membre de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement du Maroc. Et vous êtes ma femme d'aujourd'hui. Et on va aller fouiller un peu plus dans l'histoire de Raja. Pour découvrir qui est cette femme d'aujourd'hui, que l'on peut rencontrer dans les médias, mais qui a tout un vécu derrière. Un vécu qui fait d'elle la militante et la femme engagée qu'elle est aujourd'hui, justement. Alors, Sheffield, vous avez d'abord un diplôme qui est assez spécial. C'est un diplôme en toxicologie industrielle. C'est quoi exactement?
Alors oui, donc en fait, le diplôme de toxicologie de l'environnement avec une spécialisation en toxicologie industrielle, c'était l'ancêtre des diplômes en environnement, en fait, qui sont apparus en France dans la fin des années 80, puisque j'ai commencé mes études supérieures en 1986 exactement, après avoir obtenu un master en biologie à l'université Ain Chowk de Casablanca, bien entendu. Et donc je me suis inscrite parce que je voulais aller vers quelque chose qui va vers la nature. Parce que depuis toute petite, je m'intéressais aux plantes, aux arbres, j'essayais de reconnaître une plante rien qu'à ses feuilles, alors que j'étais encore enfant. Donc ça me passionnait, tout ce qui était nature, etc., ça me passionnait. Et je voulais donc suivre un cursus qui était en relation avec la nature. Et c'était le seul cursus, en fait c'était le diplôme national en toxicologie de l'environnement français, puisque je me suis inscrite à l'Université de Lille 2 et à l'Institut européen d'écologie de Metz. Donc, c'était l'ancêtre d'un doctorat en environnement. Donc, ça s'appelait toxicologie de l'environnement. Et par la suite, j'ai fait une spécialisation en toxicologie industrielle parce qu'après, je me suis aperçue que toutes les formes de pollution de l'environnement avaient des impacts directs sur la santé humaine. C'est ce qu'on a étudié à l'Institut européen d'écologie. Et donc, je me suis dit, ça m'intéresse de connaître quels sont les impacts des polluants sur notre santé. Et voilà, je me suis spécialisée en toxicologie industrielle. C'est en fait une spécialisation qui s'intéresse à tout ce qui est impact des différentes formes de pollution, qu'elles soient atmosphériques, dans l'eau, dans le sol, etc., sur notre santé, et plus exactement la santé respiratoire, puisque je suis spécialisée en lutte contre la pollution atmosphérique et ses impacts sur le système respiratoire humain.
Alors,
à la faculté de médecine de Lille.
Lala Raja, tout ça, oui. C'est votre centre d'être, ce qui vous a intéressé. Ce vers quoi vous êtes allé pour vous former. Vous êtes encore très jeune, mais tout ça, c'était dans les années 90, début des années 90, c'est bien ça.
Oui. Exactement.
L'entourage familial, à ce moment-là, justement cette soif d'apprentissage, cette soif du voyage, est-ce que ça n'a pas posé de problème à la famille marocaine de l'époque?
Pas du tout, pas du tout. Je peux vous dire que déjà en étant enfant, moi j'ai trois sœurs qui sont plus âgées que moi, et donc en étant enfant, j'entendais mon père toujours dire à mes grandes sœurs, vous devez étudier, vous devez être indépendante. Et donc, c'est une phrase qui sonnait tout le temps dans ma tête, vous devez tout faire pour être des femmes indépendantes et ne pas dépendre
d'un homme.
De quelqu'un.
Oui, oui,
alors,
oui.
Voilà. Et j'étais toute petite encore. Donc, j'étais toute petite, j'étais au primaire. Et donc, cette phrase résonnait toujours dans ma tête. Et ma mère, donc, qui n'a pas fait beaucoup d'études, elle a été obligée de sortir de l'école, donc, parce qu'elle me racontait, depuis que j'étais toute petite, qu'elle regrettait beaucoup ma mère, qui était une femme très intelligente, alors que son frère avait fait des études de médecine. Il était parmi les premiers médecins marocains envoyés en France donc, pour étudier la médecine. Elle, on lui a dit, tu ne peux plus aller à l'école, tu es grande maintenant et donc tu ne vas pas aller avec les garçons à l'école. Donc ma mère me disait, moi je n'ai pas étudié, mais toi tu as l'obligation d'étudier. C'est-à-dire que j'étudiais pour elle et pour moi en quelque sorte. Au contraire, j'étais poussée par ma mère, parce que j'ai perdu mon père l'Irhamo en étant très jeune. D'accord. Et donc j'étais poussée par ma mère à aller le plus loin possible dans les études. Et elle était toujours fière, elle m'encourageait, elle était toujours très fière de ce que je faisais.
Alors justement, est-ce qu'à ce moment-là, on adopte aussi en soi les rêves de ses parents ? C'est-à-dire qu'on incarne les rêves de ses parents ? Est-ce que ça donne des ailes ou c'est une grosse responsabilité?
Non, moi je crois que ça donne des ailes. Je crois que c'était très motivant pour moi de voir que mon père, c'est ce qu'il voulait que je fasse et que ma mère était... Ma mère, vous savez, quand j'allais chercher les résultats des examens, quand je revenais, je la trouvais sur le pas de la porte. Elle ne pouvait pas rester à l'intérieur de la maison avant de savoir quels étaient les résultats de mes examens. Donc non, au contraire, c'était très, très motivant pour moi, au contraire. Au contraire, et de rendre ma mère fière, c'était très motivant pour moi.
Alors, Lalla Raja, justement, sois indépendante, qaraïa binti aouli ala rasak, ne dépend de personne. Est-ce que ça complique aussi d'une manière ou d'une autre, la relation avec les hommes?
Pas du tout.
Alors, j'adore.
Non, pas du tout, mais je crois que j'ai eu beaucoup de chance, vraiment. Je suis très chanceuse d'avoir un mari très compréhensif, un mari du domaine d'ailleurs. Mon mari fait partie des experts, des plus grands experts au Maroc dans le domaine du développement durable. On a fait nos études ensemble, on s'est connus à l'âge de 18 ans et depuis on a fait notre chemin ensemble, nos études ensemble, etc. Sauf qu'après, moi j'ai travaillé dans le public et lui, il a travaillé dans le privé. Aujourd'hui, il travaille dans une organisation internationale ici même au Maroc comme grand spécialiste de l'environnement, mais ça n'a jamais posé de problème parce qu'on a évolué ensemble. Je crois que ça m'a beaucoup aidée également d'avoir un mari dans le même domaine qui comprend ma passion. Et donc, à table, on parlait en fait des études d'impact sur l'environnement, des derniers articles sur la pollution de l'air, etc. Et mes enfants ont grandi là-dedans. Donc, non, pas du tout. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mes parents, mais également grâce à mon mari, que je remercie.
Ça, c'est important aussi de reconnaître l'apport de l'autre dans sa réussite, dans son évolution. C'est important.
C'est tout à fait normal.
Ouais. Et c'est important peut-être aussi pour une femme marocaine mariée d'avoir le soutien de son époux pour pouvoir avancer.
C'est un soutien qui est
obligatoire. Si ce soutien n'avait pas été là, est-ce que vous auriez pu évoluer de la même manière?
Je ne le pense pas. Si j'avais eu un mari qui me bloquait, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si j'avais eu des problèmes dans ma vie, je ne crois pas. Et je me dis que même si j'avais un mari qui travaille dans un autre domaine, peut-être qu'il n'aurait pas compris ma passion, qu'il n'aurait pas compris mes discours. Même quand on parlait normalement, etc. Et qu'il n'aurait pas compris que je visite plus d'une cinquantaine de pays pour des raisons professionnelles en ayant deux enfants.
Alors justement, faire le tour du monde en ayant deux enfants qui restent à la maison, j'imagine, la plupart du temps. Certaines, aujourd'hui, encore aujourd'hui, font le choix c'est un choix qui leur revient, bien sûr. On n'est pas là en jugement, mais on est là pour s'inspirer aussi de certains modèles. Et le vôtre est un modèle, justement. Certaines font ont peur de laisser leurs enfants, font le choix de rester, de mettre entre parenthèses leur carrière, le temps que les enfants grandissent. Sauf qu'on sait comment ça fonctionne quand on met entre parenthèses sa carrière. Eh bien, 10 ans plus tard, on ne va pas la reprendre. Là, on l'a arrêtée, on va la reprendre pratiquement à zéro. C'est quoi la clé ? C'est de ne pas culpabiliser ?
C'est sûr, il ne faut pas culpabiliser. En fait, je n'ai jamais vraiment culpabilisé puisque, comme je vous ai dit, j'étais aidée d'abord quand moi j'étais en voyage. Je savais que le papa était là. Il emmenait les enfants à l'école, il travaillait avec eux. Et surtout, grâce à ma mère également, donc, qui prenait ses affaires, elle qui habitait à Casa et qui venait à Rabat. Si je dois être absente 15 jours, elle restait avec mes enfants 15 jours pour que mes enfants restent à la maison, aillent à leur école, même quand ils étaient tout petits à la maternelle, etc. Donc, pour ne pas déstabiliser les enfants. Et je crois que les deux personnes qui ont joué donc un rôle très important qui m'a permis d'avancer dans ma carrière, c'est mon mari et ma mère, l'Irma. Ça, c'était très important. C'était très, très important. Et ce que je peux dire aux femmes, c'est que en fait, je n'étais jamais inquiète pour mes enfants. Alhamdoulilah, maintenant, ils sont grands. Ils ont de très beaux diplômes. Ils ont des postes magnifiques à l'international. Et donc, j'en suis très fière. Donc, finalement, je peux leur dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc, vos enfants, au contraire, moi, mes enfants me soutenaient. Même étant petit, ils me soutenaient dans ce que j'étais en train de faire.
Ouais, ouais. En même temps, ce qui a permis ça, vous l'avez bien dit, c'est l'équilibre qui restait, qui était assuré par ces deux personnes, votre maman, Allah yarhamha, et votre conjoint. Aujourd'hui, on voit que la nouvelle génération de grands-parents est en train de changer. Les grands-parents sont aujourd'hui toujours des personnes actives, même au-delà de 60 ans, c'est-à-dire que l'âge de la retraite, on n'est plus dans le modèle ancien des grands-parents, de la grand-mère qui n'a jamais travaillé, qui est sortie de l'école, qui est restée à la maison. Et donc, quand elle a des enfants, des petits-enfants, elle se dédie à ses petits-enfants aussi. Aujourd'hui, non, les grands-mères continuent à travailler. Elles ne peuvent pas apporter ce soutien-là à leurs enfants. On va prendre votre exemple, un jour, quand vous serez grand-mère, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir mettre votre carrière de côté et aller vous occuper de vos petits-enfants 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 semaine?
Moi, je l'ai promis à ma fille. Je lui dis, voilà, comme ta grand-mère était là pour vous, moi, je serai là pour tes enfants. Ma fille est mariée et elle n'a pas encore d'enfants. Mais je crois que je vais me dévouer comme ma mère s'est dévouée pour moi, parce que les parents sont là pour ça. Et puis je crois que dans la vie, il y a d'autres valeurs, il y a d'autres priorités également. Ma carrière, alhamdoulilah, elle était très riche. J'ai encore quelques années devant moi, inchallah. J'espère que j'aurai la santé et le courage de les continuer, mais j'ai promis d'ores et déjà à ma fille d'être à ses côtés le jour où elle aura des enfants, que je ne la lâcherai pas, que je serai à côté d'elle.
C'est ça en fait, c'est qu'une femme aujourd'hui, pour qu'elle puisse réussir, marocaine ou pas, hein, mais nous on parle de la femme marocaine parce que c'est notre contexte, elle a besoin, elle a besoin d'un environnement, d'un climat approprié qui va l'aider à réussir.
Ça, c'est clair.
Toute seule, elle
ça,
ne peut clair. Pas, en fait.
Non, ça, c'est clair. Parce que, d'autant plus que moi, j'ai fait ma carrière dans l'administration marocaine. Et donc, là, on le sait, des postes, parce que j'ai occupé, comme vous le savez, plusieurs postes de responsabilité. Et donc, une carrière dans l'administration est très exigeante. Très, très exigeante. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que, dans une partie de ma carrière, pendant presque 9 ans, je suis partie avec toute ma petite famille à l'étranger. Donc, on a passé 6 ans au Canada et on a passé 2 ans à Bruxelles. Dans les deux cas, j'occupais des postes internationaux. Et donc, toute ma petite famille, on était toujours soudés. Et on avait un petit parlement familial, en fait, parce que avant de prendre une quelconque décision, même si mes enfants étaient encore très jeunes, on consultait toujours les enfants, y compris sur, pour le départ à l'étranger. Donc, on les a toujours consultés. Et c'est sûr que s'il n'y avait pas une harmonie au sein de notre famille, et si je n'étais pas soutenue, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus difficile.
C'est ça, ça c'est une réalité. Alors, l'environnement, c'est votre passion depuis toujours, vous l'avez dit. D'ailleurs, vous y avez consacré vos études et votre vie professionnelle et votre vie tout court jusque-là. Pendant très longtemps, ça restait quand même un domaine abstrait. Aujourd'hui, c'est un domaine qui est très tendance. Mais est-ce que la tendance, est-ce que la mode de la thématique l'emporte sur la véritable conscience de l'urgence climatique?
Je ne crois pas que ce soit un effet de mode. C'est vrai qu'il y a, par exemple, 20 ans, c'était beaucoup plus difficile de faire admettre que le climat était en train de changer. Je me souviens des tout premières ateliers que j'organisais, donc en étant responsable du dossier changement climatique au ministère. Je me rappelle des toutes premières réunions que j'organisais et je vous avoue qu'il n'y avait pas beaucoup de convaincus dans la salle quand j'y étais, quand je parlais de ça, des problèmes que nous risquons de vivre à l'avenir, etc. Il n'y avait pas beaucoup de conviction. Au contraire, il y avait même des gens qui se levaient dans la salle pour me contredire et pour dire que la problématique des changements climatiques, c'était du grand n'importe quoi et que le climat ne pouvait pas changer par l'action humaine. Et donc, je suis très heureuse de voir que parmi ces gens qui véhiculaient ce message, certains ont même se sont engagés dans la lutte contre le changement climatique, ont même produit des revues maintenant qu'ils envoient des articles, beaucoup de rapports sur les changements climatiques. Donc, c'est une preuve que la conscience a changé. La conscience a changé parce que si le changement climatique était dans de l'ordre de l'abstrait avant, les gens ne le touchaient pas du doigt. Aujourd'hui, tout le monde le touche du doigt. Le fait qu'il ne pleuve plus, le fait que les barrages soient pratiquement à sec, le fait qu'on n'ait plus eu beaucoup de production d'olives, que l'huile d'olive aujourd'hui coûte 80 ou 100 dirhams alors qu'elle coûtait moitié donc juste l'année dernière. Donc les gens l'ont vu de leurs propres yeux, qu'on n'ait plus de revenus agricoles, que la température était très élevée en été et qu'il fasse très 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 froid cet hiver, etc. Je crois que le simple citoyen marocain et même les citoyens dans le monde entier se sont rendus compte aujourd'hui qu'il y a un problème. Et je crois que si vous demandez, vous posez la question à n'importe quel citoyen, est-ce qu'il croit aujourd'hui que le changement climatique existe? Il va vous répondre oui dans la majorité des cas, parce qu'aujourd'hui on le touche vraiment du doigt. Et les Marocains savent qu'aujourd'hui on vit une pénurie de l'eau. L'exemple en est que Sa Majesté le Roi Kadhi Al-Assisi lui-même en a parlé à plusieurs reprises, etc. Et donc le citoyen marocain aujourd'hui est conscient. Si avant c'était quelques jeunes et moins jeunes donc qui étaient engagés envers la cause écologique il y a quelques années, aujourd'hui je crois que tout le monde est unanime qu'il y a problème et qu'il faut agir très vite.
Alors justement, Lala Raja Sheffield, pour conclure, est-ce que aujourd'hui vous considérez que vous êtes vraiment arrivé à ce point crucial de l'importance du message écologique et environnemental, enfin?
Au niveau national, vous voulez dire?
Oui, absolument.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de problème à faire passer les messages, Dieu merci. Donc, je crois qu'aujourd'hui, n'importe quel responsable, au gouvernement ou pas, même dans le secteur privé, les ONG, etc., qui prend la parole, quel que soit le sujet, va certainement inclure dans son message quelques phrases sur l'importance de lutter contre le changement climatique, etc. Donc, je crois que cela nécessite encore plus d'engagement de la part de tout le monde, pas seulement les citoyens, mais de la part de tous les professionnels de l'industrie, de l'agriculture, etc. C'est sûr que notre pays a parcouru un chemin non négligeable, même très très important en termes de gestion des ressources en eau, etc. Mais on doit faire davantage. On doit faire davantage en mobilisant nos jeunes. À travers quoi ? À travers des cursus spécialisés davantage dans le domaine de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, et à travers le développement de la recherche et développement en lien avec cette problématique environnementale et climatique pour trouver des solutions marocaines aux problèmes écologiques marocains.
Alors, dernière question. Vous avez dit tout à l'heure, au départ, vous aviez justement des collègues, des confrères, des personnes qui se levaient pendant vos prises de parole pour vous contredire et dire que ce que vous étiez en train de dénoncer à l'époque, le changement climatique serait d'origine humaine, et bien que tout ça, c'était faux. Une question, est-ce que ça rajoutait justement à votre... On vous décrédibilisait davantage à l'époque? Parce qu'en plus, vous êtes une femme, vous pensez ?
Non, je ne crois pas que ça me décrédibilisait. Au contraire, de toutes les façons, je crois qu'un tel message, dans les années 90, ne passait pas tout simplement. Ça oui. aurait été un homme, je suis certaine, qui disait ça, on lui aurait répondu pareil. Mais au contraire, moi, je trouve que ça rajoutait ma détermination pour que ce... problèmes deviennent plus visibles et qu'ils soient reconnus. C'était tout le contraire. En fait, ça ne me décourageait pas, ça m'encourageait à redoubler d'efforts et à innover en matière de sensibilisation, d'information, de recherche, etc., pour justement sensibiliser le maximum de monde.
Eh bien, Raja Chafil, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci, merci à vous. C'était un honneur et un plaisir. Merci.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous.